les quatre saisons.
La politique est un cycle.
Il ne faut pas faire n'importe quoi pour le symbole.
Elle est faite d'orages et d'éclaircies.
Et que le soleil brille pour tous.
Un éternel recommencement.
Mais c'est pas parce qu'il y a des tensions qu'il y a une crise de gouvernement.
Le Vivaldi, c'est la fin de la Belgique.
Baptiste Tupin, Imad Messoudi.
Bonjour Baptiste.
Bonjour Imad.
Cette semaine, on vous fait un remake de La cigale et de la fourmi.
Cela fait des mois que les États font la cigale et dépensent sans compter.
Mais la fourmi commence à se demander qui va payer la facture.
Les quatre saisons. La politique belge racontée à l'ère de la Vivaldi.
Vous savez qu'on est un pays compliqué, hein ?
Été.
Vous les entendez ?
Cet été ne sera pas encore un été normal.
C'est Cigale qui annonce l'été.
Mais nous pouvons vraiment envisager un merveilleux été.
La fin des efforts et de la grisaille.
Un été un peu plus léger.
Pour vivre avec une plus grande sérénité.
Parce que la population a fait évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices.
C'est Cigale qui nous prédisent le retour de la consommation, de la croissance.
Les économies des pays de la zone euro qui vont repasser dans le vert.
We have 750 billion euros.
Celle qui invite à investir à coups de milliards.
Bonsoir Thomas Dermine.
On doit investir dans l'infrastructure de demain.
Avec confiance dans le futur.
Je dis qu'investir dans le social, ce ne sont pas des dépenses, c'est de l'investissement et c'est parier sur l'avenir.
Mais on sait tous depuis notre enfance...
La cigale ayant chanté tout l'été...
Que lorsque chantent les cigales, les fourmis ne sont jamais bien loin.
Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine.
Celle qui rappelle que le pays met la main au portefeuille depuis plus d'un an pour aider les secteurs en détresse.
Il va falloir discuter de comment est-ce qu'on remet les finances publiques sur une trajectoire soutenable.
Les fourmis qui gardent un œil sur le taux d'endettement record de la Belgique.
115% du PIB.
La secrétaire d'État au budget met déjà en garde.
On a dépensé beaucoup, mais maintenant on doit commencer à veiller qu'on ne dépense pas de trop.
La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut.
Alors cette semaine, on s'est demandé quand et comment on allait payer le prix de cette crise.
La question qu'il faut se poser, c'est pas combien ça va coûter.
Si l'austérité s'imposerait à nouveau.
Le problème est qu'en Belgique, il y a un déficit structurel.
Après la mise en œuvre des plans de relance.
Je ne veux pas entendre parler de mesures d'austérité.
Si, une fois encore...
Je vous paierai, lui dit-elle.
La facture allait être transmise aux générations futures.
Intérêt est principal.
Parce que ces dernières décennies, chaque crise économique s'est traduite par une longue période d'austérité. Retour au début des années 80.
La Belgique est en train de s'appauvrir.
Quelques années après le choc pétrolier de 1973, le Premier ministre Marc Heyskens est inquiet.
Il n'y a pas moyen de se voiler la face depuis 73, on s'appauvrit. Alors, on peut le camoufler, c'est ce qu'on a fait. Pendant 8 ans, en s'endettant, tous azimuts.
La dette belge est passée de 50 à 100% du PIB en quelques années.
Les finances de l'État sont dans le rouge avec un déficit de 260 milliards.
La situation est grave. Le gouvernement suivant, celui de Wilfried Martens, demande les pouvoirs spéciaux en 1983 pour prendre les mesures économiques qui s'imposent.
Sera-t-il amené à demander au Parlement d'accorder au roi certains pouvoirs spéciaux jusqu'au 31 décembre.
10 années d'austérité et d'économie plus tard, place à Jean-Luc Dehaene.
Je crois que la population se rend compte que nous sommes dans un temps de crise, que l'ensemble de l'Europe est en temps de crise.
Il instaure le plan global.
Il faut intervenir à temps plutôt que de laisser pourrir les choses.
À l'époque, la Belgique fait des efforts économiques considérables pour respecter les fameux critères de Maastricht.
La fameuse limite de Maastricht, c'est-à-dire un déficit public de maximum 3%.
Le pays se serre la ceinture jusqu'aux années 2000.
Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau.
Et après quelques années budgétaires moins tendues, coup de tonnerre dans la finance en 2008.
Lehman Brothers, une des plus prestigieuses banques d'affaires, vient de déposer le bilan.
La crise bancaire fait à nouveau plonger l'économie dans le rouge.
Soirée de travail pour le gouvernement, il faut sauver Fortis.
L'État belge s'endette pour sauver les banques.
Un effort de 11,2 milliards d'euros.
Et c'est reparti pour l'austérité.
Réduire le déficit, essentiellement par des réductions de dépenses.
Restrictions budgétaires sous les gouvernements successifs d'Yves Le Terme, d'Elio Di Rupo.
L'objectif, eh bien, c'est de trouver 3 milliards d'euros pour les années 2010 et 2011.
Et de Charles Michel.
Le montant à trouver était de 2,4 milliards.
Ça fait donc plus de 40 ans qu'on paie les crises à coups d'économies sans en voir le bout.
Il faut complètement inverser ce raisonnement d'austérité.
Alors pour sortir de la crise actuelle, L'heure est peut-être venue de se laisser aller au séduisant chant des cigales.
Cette crise du coronavirus, elle sera retenue comme un moment où on s'est rendu compte de la nécessité d'investir dans l'avenir.
De profiter de taux d'intérêt historiquement bas pour investir et doper la croissance.
750 billion euros.
Mais souvenons-nous que jusqu'ici, dans la fable de La Fontaine comme en politique belge,
vous chantiez et j'en suis fort aise.
La fourmi a toujours obtenu gain de cause.
Eh bien, dansez maintenant.
Alors, y a-t-il un risque pour la Belgique si elle s'attarde un peu trop sur la piste de danse? Combien de temps pourra-t-elle vivre au-dessus de ses moyens? On va en parler, comme chaque semaine, avec toi, Imad. Évidemment, on ne va pas vous faire un cours d'économie, on n'en serait pas vraiment capable d'ailleurs, mais on va tout de même tenter d'être le plus pédagogique possible pour bien comprendre la situation, vraiment pas banale, dans laquelle nous nous trouvons. D'abord, Imad, on va faire un point chiffré sur la situation économique de notre pays après plus d'un an de pandémie. Dans quel état sont les grands indicateurs économiques de la Belgique?
Alors, en 2020, l'économie belge, elle est entrée en récession, c'est clair. Sur l'année, le produit intérieur brut, c'est-à-dire tout ce que les Belges produisent, eh bien, ce PIB a baissé de 6,3%, c'est plus ou moins la moyenne européenne. Au premier trimestre 2021, on recule encore un petit peu, mais on voit que pour le deuxième trimestre, les chiffres qui viennent de sortir, 1,2, ça commence à revenir dans le vert. Mais les prévisions, que ce soit de la Banque nationale, l'OCDE, l'Union européenne, prévoient une croissance en 2021 entre 3,5 et 4,7%. Ça pourrait même être un petit peu plus.
Oui, c'est des chiffres importants de croissance, hein, cette fameuse croissance en V dont on parle souvent. Donc là, on parle du PIB, du produit intérieur brut. Comment ça se passe au niveau de l'emploi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pertes d'emploi pendant cette pandémie?
Le chômage a augmenté, mais pas autant qu'on aurait pu le croire. Un petit 0,2 point de pourcentage en taux de chômage harmonisé. C'est un peu technique, c'est toujours très compliqué les chiffres de l'emploi. Et on est à 5,6% donc de chômage en Belgique. Et visiblement, c'est cette année. Hein. En fait, c'est en 2021 que le chômage va frapper. L'OCDE prédit un taux de chômage de 6,4% en 2021, 6,3% en 2022. Donc ça va progresser. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif, hein, puisqu'on sort de la crise épidémiologique, mais c'est la conséquence des mesures de soutien qu'on a connues depuis un an, comme le chômage économique, qui ont permis de sauver pas mal d'emplois. Et une fois que ces mesures seront supprimées, bien, des entreprises vont devoir mettre la clé sous le paillasson.
Alors toutes ces mesures, justement, il a fallu évidemment les financer. Donc la Belgique a emprunté, elle a gonflé sa dette.
Oui, et de façon très significative, on est passé d'une dette qui représente 98% du PIB en 2019 à...
Enfin sous les 100%.
Enfin sous les 100%, exactement. On est passé à 114% en 2020 et on devrait rester à 115% selon l'OCDE en 2021 et en 2022. Alors, c'est des pourcentages, on ne comprend peut-être pas très bien, mais pour vous donner un petit peu une idée du montant, ça représente notre dette actuellement 515 milliards d'euros. On était à 467 milliards en 2019, donc on voit que c'est quand même pas mal. On va préciser quand même qu'on est désormais rejoint par la France et par l'Espagne dans le club des mauvais élèves, hein, les dettes supérieures à 100% dans la zone euro. Et puis la moyenne de la zone euro, elle frôle, hein, les 100%. Donc ça montre bien que c'est une crise qui est vraiment assez générale sur le continent européen. C'est un record dans notre histoire contemporaine.
Donc ça fait plus d'un an maintenant que la Belgique, comme d'autres pays de la zone euro, a fait la cigale, en fait, qu'elle a dépensé un peu sans trop compter pour donner des réserves aux secteurs les plus touchés. Et on constate maintenant que les économies commence à reprendre du poil de la bête. Et en fait, ça va un peu plus vite que prévu. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Exactement. Et ça surprend pas mal de monde. On précise qu'on enregistre cet épisode le mercredi 9 juin. Il est 14h23. La Banque nationale va publier ses projections économiques ce lundi, 14. Alors, si vous nous écoutez après cette date, les chiffres qu'on va évoquer seront peut-être un peu plus précis ce lundi. Mais on a réussi pour le podcast à avoir quelques petites données intéressantes. Et parmi celles-ci, il y a la confiance des investisseurs. C'est un indicateur important. Les dernières données brutes de la Banque nationale donnent une confiance qu'on n'a plus vue chez nous en Belgique depuis 2007, avant donc la fameuse crise financière. Du côté des consommateurs, on est au plus haut aussi sur la même période, hein, 2007-2021. On arrive au plus haut niveau, égalité plus ou moins avec fin 2017, début 2018. Cet optimisme, il s'explique par justement l'élan d'optimisme provoqué par les vaccins, parce que les projections en fait prévoyaient un règlement médical de la situation du Covid autour de 2022, en fait moitié 2022. Là, on a carrément un an d'avance, c'est quand même pas mal. Alors un petit chiffre encore très impressionnant, il concerne les investissements. au premier trimestre 2021, il n'y a qu'un tout petit pourcent d'investissement en moins que par rapport à 2019. Et c'est dingue parce que c'est 17 points de pourcentage de moins que prévu. Les projections montraient en fait une baisse de 18% des investissements entre 2019 et 2020. Alors c'est un chiffre qui vient de l'Institut des comptes nationaux. Ben en fait, on est reparti comme en 40. Hein. Franchement, c'est un peu ça la conclusion à laquelle on doit arriver.
Oui, donc ça veut dire qu'on continue à investir malgré la crise économique ou malgré la pandémie. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui le rebond auquel on assiste ?
Alors, je suis allé le demander à un économiste, hein, Didier Paco. Il est le chief économiste à l'Institut d'Estrée. Et tu vas l'entendre, c'est une histoire d'Hibernatus ou de Captain America, selon vos références.
Le rebond est très rapide parce que cette crise n'a pas entamé les capacités de production, n'a pas réduit ses capacités de production, elle n'a pas entraîné un chômage structurel important. Et donc les capacités productives, le système de production est resté intact. On l'a mis à l'arrêt, mais les taux d'intérêt restent bas. Et donc la reprise peut se faire quasiment instantanément, surtout que du côté de la demande, le surplus d'épargne va être quand même un moyen pour la consommation de reprendre. Et donc, on a assisté à une économie qui s'est figée, mais qui ne s'est pas détériorée. C'est comme si on l'avait figée dans la glace, et puis qu'après, une fois que la glace fond, eh ben, tout est intact. C'est comme si quelqu'un est figé dans la glace, eh ben, quand il se dégèle, son corps est intact. C'est un peu ce qui s'est passé pour l'économie, notamment grâce aux mesures qui ont été prises. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on puisse avoir une reprise rapide et importante.
Ok, je comprends mieux la référence à Hibernatus, le film de Louis de Funès.
Vous êtes resté enfermé pendant 65 ans dans un bloc de glace et on vient de vous retrouver intact il y a deux mois.
Le dégel, c'est le retour de la vie économique grâce aux mesures de soutien. C'est en dépensant qu'on a maintenu l'économie sur les rails. Donc en faisant les cigales, on a un peu fait la fourmi en fait. Et tu le disais tout à l'heure, le coût de ces mesures s'est chiffré en dizaines de milliards. Le coût du soutien qui a fait flamber notre dette. Mais il semblerait que ce ne soit pas si grave que ça, du moins si on en croit Paul de Grau, l'économiste qui était interrogé ce week-end dans le journal L'Écho. Et il disait dans cette interview, et on reste un peu dans la métaphore de météorologique, que la dette va connaître l'inverse d'un effet boule de neige, qu'elle va quasi baisser d'elle-même mécaniquement à mesure que la croissance reprend. Tu peux nous expliquer ça ?
Ah, c'est Didier Paco même qui va l'expliquer beaucoup mieux que moi.
Les énormes sommes qui ont été empruntées dans l'année précédente l'ont été à des taux de 0%, voire négatifs. Et donc, paradoxalement, on a vu que les dettes ont augmenté, mais que le service de la dette, les taux d'intérêt sur la dette, ont diminué globalement pour beaucoup de pays. Cette dette ne va pas peser fort dans le budget des pays. Ce qui va peser, c'est au moment où il va falloir renouveler cette dette à des taux d'intérêt plus élevés. Ça veut dire en clair que les États ont une marge de quelques années pour rétablir leur déficit sans trop de peine sur les budgets eux-mêmes, en fait.
Alors là, c'est un élément important que vous évoquez. Il va falloir faire un choix. Est-ce qu'il faut réduire la dette ou est-ce qu'il faut profiter des taux bas pour investir ?
Alors, la réduction de la dette en soi n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est le taux de la dette par rapport au PIB. Donc, c'est l'endettement relatif. Et donc, si vous augmentez le dénominateur, le produit intérieur brut, plus rapidement que la dette, votre ratio va diminuer et vous pouvez conserver longtemps cette dette-là. Donc, pour l'instant, il y a encore matière à pouvoir investir, certainement encore un ou deux ans, dans des investissements importants qui donneront un PIB plus important dans quelques années et permettront de réduire le taux d'endettement du pays. Mais ça ne pourra pas durer éternellement.
Donc on comprend bien hein, cette espèce d'effet mécanique qui fait que comme le produit intérieur brut a fort baissé, s'est contracté, ben forcément le pourcentage de la dette par rapport à ce produit intérieur brut, il a fort augmenté. Ouais. Et qu'à l'inverse, quand on va augmenter le produit intérieur brut, eh bien mécaniquement, la dette, elle va baisser. Quand on entend ça, on se dit que que tout va bien finalement, que tout va rentrer dans l'ordre sans trop devoir faire appel au portefeuille du citoyen. Mais d'un autre côté, au niveau politique, dans l'opposition et singulièrement en Flandre, on s'inquiète un peu quand même de cette attitude de cigale. On commence à se demander qui va payer tout ça à terme. Si on prend par exemple l'accord interprofessionnel qui est intervenu cette semaine, plusieurs voix insistent sur le fait que l'augmentation du salaire minimum, elle se fait essentiellement grâce à une baisse de la fiscalité sur les bas salaires. C'est donc un manque à gagner pour l'État et cela se reportera sur les générations futures qui devront payer. Et c'est aussi l'avis de l'économiste gantois Stijn Baert. Il s'exprime ici à la VRT.
Het grote probleem is dat dit om uitgaven gaat, die jaar na jaar onze begroting verslechteren. Die schatkist is nu bij wijze van spreken al leeg. En dan zegt men, ja, we gaan daar nog een beetje bovenop doen. En dat lijkt me dan eigenlijk zeggen van, ja, we tekenen hier een blanco cheque. In plaats van hervormingen te verzinnen die het allemaal een beetje draaglijker maken voor de mensen die de komende jaren heel zwaar zullen moeten werken, zeggen ze, nee, we gaan akkoorden sluiten waar we alle twee vakbonden, werkgevers, niet te veel een prijs voor moeten betalen. We sturen dat door naar de schatkist en de factuur is voor de twintigers, dertigers.
Donc ce qu'on entend dans les propos de Stijn Baert, c'est que même si beaucoup plaident pour poursuivre les investissements de façon à doper la croissance, d'autres ont plutôt l'attitude de la fourmi et mettent en garde contre les investissements qui risquent d'entraîner un coût structurel, un manque à gagner durable pour l'État. Et ce débat assez fondamental, ça risque bien d'être le débat politique des années à venir. Et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas oublier, sans vouloir trop faire le rabat-joie, c'est que beaucoup de secteurs économiques souffrent encore énormément.
Ouais, on a des données là-dessus. Hein. La Banque nationale a étudié la solvabilité des entreprises, secteur par secteur. On peut voir les entreprises qui étaient solvables avant la crise et qui ne le sont plus après. C'est un thermomètre très précis de ce qui s'est passé depuis un an et demi. Et tu vois sans surprise que les agences de voyage, le secteur de l'hébergement, de l'événementiel, le commerce...
L'aéronautique.
Oui, exactement. Le commerce de détail, les restaurants, la production de films ou la culture en général, tous ces secteurs-là, avec pas mal de main-d'œuvre, eh bien, tous ces secteurs ont beaucoup désormais d'entreprises qui souffrent et qui sont devenues insolvables en un an. Et un certain nombre d'entre elles, de ces entreprises, ne tiendront pas le coup.
Alors, dans tout cet épisode, on parle beaucoup de croissance, de produit intérieur brut. Pourtant, si on se souvient bien, toutes ces notions, avant la pandémie, elles étaient remises en question. On parlait d'une croissance molle, d'une croissance nulle, voire de décroissance pour certains. C'est plus du tout un débat, ça. Le Covid-19 aurait provoqué une forme d'amnésie sur ces questions-là.
Alors, j'ai posé la question à Géraldine Thierry. Elle est chercheuse et professeure en économie à l'ICHEC et à l'UC Louvain. Elle a récemment été nommée au conseil de régence de la Banque nationale. Elle travaille depuis plusieurs années justement sur des indicateurs alternatifs au PIB. Et on va l'entendre. Pour elle, la pandémie offre une possibilité de réflexion sur la croissance. Parce que historiquement, quand tu regardes les données, eh bien, on se rend compte qu'on arrive peut-être à la fin d'un certain modèle.
Structurellement, si on en observe l'évolution des gains de productivité sur des périodes de très long terme, que voyons-nous, que ce soit au niveau européen ou au niveau belge, nous avons une diminution structurelle de l'évolution des gains de productivité d'année en année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance, elle est en train de se tasser. Les gains de productivité que nous avons connus depuis le début de la révolution industrielle ne seront plus aussi importants, que l'on le veuille ou non. Il est très probable que nous devrons faire sans croissance. Et ça, je pense, plus on l'anticipera, plus on pourra faire face à cela et plus on limitera les dégâts. Nos systèmes, et notamment nos systèmes de protection sociale, ont été conçus dans un monde de pleine croissance. Nous arrivons ici, structurellement, à un essoufflement de cette croissance. Comment peut-on gérer la situation dans de tels cas? La seule solution court et à moyen terme que j'entrevois, c'est précisément de revoir en profondeur les systèmes fiscaux, les systèmes de redistribution.
Oui, les réformes fiscales à venir, on en fera certainement un épisode dans ce podcast.
Et ça sera passionnant.
J'espère, oui. En tout cas, pour cet épisode-ci, ce premier épisode de l'été, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast qui vous raconte la politique à l'ère de la Vivaldi. D'ici là, cigales ou fourmis, profitez bien des premières douceurs de l'été.
Salut.
Les 4 saisons, un podcast de Baptiste Tupin et Imad Messoudi. Mis en musique par Jérémy Boquet.